ça que je parlais du terme transactionnel, c'est pas péjoratif, tu sais, on est dans la transaction, là, il faut closer. Mais si c'est perçu comme purement transactionnel et que t'es pas là pour me connaître, t'es là pour vendre, c'est là où ça marche pas. Je vais toujours, puis tu peux demander à tous ceux que tu connais, qui me connaissent bien, là, moi c'est la rigueur avant le bonheur, là, ça prend une rigueur dans ta structure, dans ton pitch. Tu peux aller dans tous les... Surtout dans un contexte comme le nôtre où ils vont te poser des questions qui n'ont pas rapport. Si tu n'es pas structuré, si tu n'as pas... Tu sais, comme tu dis, ta phase de découverte, tous les points que tu vas amener, tu es perdu dans ton pitch parce que tu ne vas pas savoir revenir.
Bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Ici, on parle de prospection, de vente, de closing, de relations clients, de management, mais aussi de mindset. C'est 100% concret. Je suis Laetitia Fall et je vous embarque dans une nouvelle discussion pour rejoindre le top 1% des meilleurs commerciaux. C'est votre dose de culture sales. Bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue sur Vendu, le podcast pour booster vos ventes. Je suis aujourd'hui en compagnie de David D'Acosta, qui est associé et propriétaire d'une boîte qui s'appelle Sourcing, que je te laisserai du coup, David, j'espère que tu vas bien présenter cette boîte. C'est dans le recrutement, une boîte qui est basée au Canada. Du coup, j'avais envie qu'on échange ensemble, notamment pour que tu parles justement de comment, quelles sont les différences entre la vente en France et au Canada, notamment parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui rêvent du monde nord-américain et qui aiment bien se dire, voilà, j'ai une boîte, allez hop, j'ai un produit qui fonctionne en France, je vais aller aux États-Unis ou au Canada commercialiser. Du coup, j'en ai fait l'expérience, on en parlera plus tard, ça ne marche pas comme ça, c'est plus complexe que ça et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Du coup, si tu peux te présenter pour expliquer qui t'es, ton background, comment tu t'es retrouvé au Canada, parce que t'as quand même un accent qui n'est pas canadien. Enfin, si, qui est canadien, mais bref, t'as pris l'accent canadien. Donc, raconte ton parcours et ensuite, on parlera de comment faire de la vente au Canada.
Parfait. Bon, en tout cas, merci Laetitia pour l'invitation.
Puis, avec plaisir. Donc,
concrètement, alors, je vais peut-être expliquer un peu plus profondément qui je suis, parce que ça va faire du sens pour ceux qui m'écoutent, mais... Je suis né portugais en France, je suis né en région parisienne, j'ai étudié, j'ai grandi en région parisienne. J'ai étudié par la suite sur Paris en maîtrise en négociation des affaires. Puis pendant ma première année de maîtrise, j'ai eu la chance de faire un échange universitaire. J'ai choisi le Mexique. J'ai toujours adoré la culture latine. Puis bref, avec les moyens que j'avais, c'était peut-être un peu moins cher d'aller au Mexique versus les US ou le Canada comme mes amis. Sauf que mes amis qui étaient à Montréal, ils sont venus me visiter au Mexique pendant une semaine. Puis moi, j'ai visité Montréal pendant une semaine, pendant mon échange. Puis j'ai découvert cette ville. Je suis tombé en amour avec la ville. Quand je suis revenu à Paris pour finir ma maîtrise, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour immigrer. J'ai gradué, puis j'ai lancé ma résidence permanente à distance. Puis je suis arrivé à Montréal en 2010. Ça fait déjà 13 ans, ça fait un tiers de ma vie que je suis rendu au Canada. Puis donc je suis né avec mon diplôme en poche, j'avais fait tous mes stages en France. J'ai rapidement eu de la job en tant que vendeur, principalement en tech, parce que je vendais de la tech déjà en France. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des relations professionnelles. On m'a fait tomber dans la marmite du recrutement assez tôt, en 2011. Ça, c'est une petite histoire, on pourra en reparler, mais... C'est mon niveau d'anglais n'était pas le même qu'aujourd'hui quand je suis arrivé en 2010. Puis j'ai eu énormément d'entrevues qui n'ont pas fonctionné, pas à cause de mes compétences de vendeur, mais à cause de mon niveau d'anglais. Donc on me disait, hey David, c'est vraiment dommage parce que tu es fait pour la job, mais ton niveau d'anglais n'est pas là. Puis quand j'ai rejoint Tech Systems en 2011, qui est une des plus grosses boîtes de staffing TI aux États-Unis, ils m'ont brassé, ils m'ont challengé, mais j'ai tout fait en anglais. Puis, tu sais, c'est le vendeur en moi aussi qui a réussi à me vendre. J'ai eu la job. C'est là où ça fait depuis 2011 que je suis en acquisition de talent. J'ai travaillé dans le jeu vidéo par la suite, côté corpo. Puis, c'est en 2015 que j'ai rencontré mes associés actuels, donc Sébastien Savard et Pierre Leroux, lors d'un événement de recruteurs aussi. Puis, j'ai rejoint l'aventure entrepreneuriale en 2015. On était deux, puis on est rendu à 35 employés aujourd'hui. Donc, à travers le
Canada,
on a de la business en Amérique du Nord, en Europe aussi. Là. Donc, d'où notre conversation, là, même si j'ai vendu très tôt dans ma carrière en France, depuis quelques années, je revends tranquillement, pas vite, en France aussi. Puis je vois la différence de comment tu vends en France versus Montréal, mais également versus Toronto, versus New York, parce
Ouais.
qu'on couvre tout ce marché-là.
OK.
Dans le quotidien, pour finir l'intro, bah c'est ça, comme tu le mentionnais, je suis associé propriétaire de Sourcing, mais concrètement, tu sais, je suis responsable de toutes les opérations des ventes, puis des livrables de recrutement. On est une petite équipe de vente, là. Mais en étant une petite compagnie, comme tu le sais, on touche souvent à tout, là. Moi, mon dada, ça reste parler aux clients, comprendre leur réalité, proposer des solutions, puis par la suite, bah, c'est ça, livrer ces solutions au quotidien.
Ok, très cool. Est-ce que tu peux du coup pitcher rapidement Sourcing pour les gens, pour que les gens qui connaissent pas puissent savoir
Ouais.
connaître un peu ce que fait la boîte?
Bah, Sourcing, qu'on n'est pas allé chercher le nom très très loin, là. Notre méthodologie et notre expertise, c'est le sourcing. Donc,
Yes.
par définition, c'est vraiment la recherche, l'identification, puis l'approche personnalisée de profils passifs qu'on convertit en candidats
Ok.
pour nos clients. Donc, c'est une méthodologie qui est, tout le monde en parle aujourd'hui, mais quand on s'est lancé en 2015, familièrement, tout le monde parlait de chasse de tête. Tu sais, c'était
Ouais.
souvent des recherchistes, c'est des profils juniors. Tu sais, quand tu sors d'école, tu commences par ça avant d'être RH. Alors que c'est une méthodologie qui est super critique pour une business. Donc, en 2015, on a lancé Sourcing en voulant shaker un peu le marché très, très, très traditionnel des firmes en acquisition de talent qui offraient généralement juste un service, c'est-à-dire je te trouve quelqu'un, puis je te charge un pourcentage annuel sur le salaire de base. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout le cycle de recrutement, de A à Z, du début jusqu'à comblement du poste, puis on l'a exploité en différents niveaux de service, qui va justement être beaucoup plus agile pour le client. Donc, dépendamment de son niveau d'expertise, de son budget, du temps qu'il a à mettre, nous, on va intervenir dans une étape ou deux ou trois ou toutes les étapes du recrutement. Donc concrètement, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on a scalé très rapidement. Là, on est passé de 2 en 2015. On était monté même jusqu'à 40 en début d'année. Là, c'est sûr que la conjoncture économique a ralenti un peu. On est rendu 35. Mais tu
OK.
sais, l'objectif, c'est d'être très proche de nos clients, puis d'être agile. Donc, on se remet en question à chaque année. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, tu sais, on
Bah
est à l'école.
déjà avec autant d'années enfin vous tenez bon quoi, vous êtes ça fait longtemps hein, aujourd'hui
Ouais, puis
que vous faites ça.
peut-être que certains de tes followers, ils connaissent de nom parce qu'on s'était lancé également à Paris en 2019. Puis, tu sais, on
OK.
était proche avec l'école du recrutement de Laurent Broye à l'époque. Puis,
Yes.
on a rencontré quand même plusieurs personnes, Laurent Sénaret, etc. Donc, on a eu des clients français, mais qui nous sollicitaient pour le Canada, c'est l'équivalent de Danone, etc. Puis là, bah, ils nous ont dit, bah, est-ce que vous pouvez nous aider également en Europe? Puis, bah, veux pas, tu sais, on est francophone, on a toujours la volonté de croître. On n'a pas créé la
Ouais.
compagnie juste pour rester à deux. Donc, on s'est dit, let's go, on ouvre en France. Puis c'est ça, tu sais, occasionnellement, on y va. Là, la COVID a calmé vraiment les activités, mais en
Ouais.
toute transparence, on n'a jamais fait autant de chiffre d'affaires que cette année en France, sauf qu'on fait tout remote.
Waouh.
On close des mandats, mais on les opère d'ici, du Canada, parce que tout le monde quasiment est bilingue. J'ai même quelques ressources françaises aussi là qui comprennent bien le marché.
Ok, trop cool. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette introduction. On va passer au vif du sujet. Moi, je t'avais un peu raconté un gros fail que j'ai eu. Je bossais pour une boîte en cybersécurité et on avait pour ambition en fait d'aller sur le Canada, commencer d'abord par le Québec et ensuite aller plutôt à Toronto, etc. Donc j'ai commencé à tâtonner du coup le terrain. J'ai eu facilement des rendez-vous parce que bon, bah, c'est un peu le mindset nord-américain où les gens, facilement, tu leur dis ce qu'on peut se parler, ils te disent oui. Par contre, catastrophique, pas un deal de signé et on a compris que ce n'était pas aussi simple que ça de débarquer, même si on avait un bon produit au Canada et de se dire, OK, cool, on va arriver à Montréal. Même si par ailleurs, il y avait un besoin, il y avait quand même des choses qu'on n'avait pas capté. Donc, moi, ça a été une expérience. Justement, toi qui connais les deux marchés, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, à la fois comme mindset, à la fois comme skills, pour pouvoir réussir au Canada? Et quand je dis Canada, évidemment, il y a les deux parties. Il y a la partie francophone et la partie anglophone où il n'y a pas le même mindset. Et il y a aussi les deux parties. Vous êtes un peu divisé quand même en deux avec le côté Toronto, le côté Vancouver, qui ne fait pas du business aussi également de la même manière. Donc, c'est aussi complexe. Donc, peut-être parler peut-être du marché canadien, déjà peut-être dans la communauté, puis ensuite parler peut-être des compétences et de ce qu'il faut.
Parfait. Mais tu sais, commençons déjà par dire que, comme tu le mentionnais là, c'est énorme le Canada. Donc, tu sais, c'est l'équivalent d'un continent par rapport à d'autres, alors qu'il y a moitié moins d'habitants qu'en France. Donc, c'est huge. Et, culturellement parlant, oui, le Québec, tu sais, francophone, mais techniquement bilingue, mais beaucoup plus francophone vis-à-vis du reste du Canada qui se veut bilingue, mais qui est majoritairement, tu sais, 99,9% anglophone. Ça crée vraiment un écart de mentalité. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, c'est même entre Montréal et la ville de Québec, qui est pas si loin, là, c'est 3 heures de route, il y a déjà une différence de comment tu fais les affaires. Ce qui m'a choqué quand je suis arrivé, c'est, tu sais, j'étais le jeune fringant qui venait d'être diplômé, puis tous les profs universitaires me disaient comment vendre en France. J'ai fait de l'alternance, donc j'ai eu la chance quand même peut-être de cumuler peut-être 3 ans d'expérience professionnelle avant de sortir sur le marché. J'étais plutôt en mode transactionnel, puis straight to the point, on va parler vraiment business tout de suite. T'sais, en France, quand t'appelles, t'as la réceptionniste. moi, je venais de ce monde-là. Là. Je suis arrivé ici, puis c'était beaucoup plus ouvert dans le sens où quasiment pas de réceptionniste. Si tu veux parler au CFO, au CTO, ligne ouverte tout de suite. Puis, c'est pas tant qu'est-ce que t'as à vendre, c'est qui tu es, en fait. Donc, très rapidement, j'ai compris que le Québec avait une culture beaucoup plus latine à proprement parler que la France. Avant de faire affaire avec quelqu'un, ils veulent te connaître. On dit souvent, puis nous on le voit là, tu sais, quand tu vas luncher ou déjeuner avec quelqu'un, pardon, en business, c'est comme tu passes tout le repas d'abord à te connaître, puis si ça fit, bah tu vas parler business lors du café et du dessert. À Toronto, d'ailleurs, c'est l'inverse. Donc, puis je l'ai revécu quand je suis retourné en France dans les activités que je mentionnais en introduction. Tu sais, c'est peut-être un peu plus rigide que ça l'est ici. Là. Donc, moi, ça m'a plu parce que j'ai appris à être vendeur. J'ai vendu, j'ai été dans des call centers aussi au début de ma carrière où il fallait closer. Tu sais, il y a le fameux terme être requin en vente aussi. Ici, si je devais le nommer, on est plus des conseillers en vente ou des partenaires d'affaires en vente qu'on est des closers, par exemple. Ce que je kiffe, c'est que moi, j'ai un mix des deux. Donc, je suis capable quand même, tu sais, de créer des relations et c'est ce qui me motive, là. Mais par contre, j'ai une motivation à chaque fin de conversation ou de lunch de closer. Et les Français ont d'ailleurs beaucoup de succès. Les Français de France, quand ils viennent au Canada, c'est pas pour rien que beaucoup d'entre eux sont dans des postes de vendeurs. Et on en voit beaucoup là, parce que nous, on a cette éducation là de vouloir closer. Ici, bah, tu sais, ça peut être un peu plus lent. Mais une fois que tu closes, par contre, tu deviens un vrai directeur de compte, puis ça peut être ad vitam aeternam. C'est une fois que la relation est créée, puis que le lien de confiance est créé et que la qualité est livrée, là, c'est comme ça peut durer toute une vie, quitte à même ne pas considérer d'autres vendeurs parce que j'aime tellement David ou XY là, que je veux continuer à bosser avec. Il faut faire attention parce que tu peux te reposer sur tes lauriers dans ces situations-là aussi. Là. Donc, il ne faut pas. Il ne faut vraiment pas.
Yes. Ah oui, tu peux te dire, c'est sûr en fait que je vais renouveler avec ces clients-là, alors qu'il y a d'autres actualités en interne qu'il faut que tu faut que tu captes et faut que tu restes alerte et pas juste te reposer sur la bonne relation que tu as.
Définitivement. Mais tu sais, je vais plus loin dans les exemples que je donnais. Ici, tu sais, dans les dernières années, mais même, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est difficile de demander à un sales de prendre le téléphone puis d'enchaîner les calls, tu sais. Parce que justement, c'est pas tant dans cette mentalité-là. Nous, c'est l'une des erreurs, tu sais, tu parlais tantôt de ton faire, puis merci d'en parler aussi, là, tu sais, moi, j'ai vécu ce même faire-là dans mes premières années à Paris. C'est pas pour rien que je dis que maintenant, ça commence à marcher un peu plus, là, mais tu sais, j'ai vite réalisé que il fallait pas copier-coller la recette qui fonctionnait à Montréal dans une autre localisation, que ça soit à Paris ou à Toronto, parce qu'on a un bureau à Toronto également. Tu sais, nous, on est des subject matter experts en recrutement. Puis si tu discutes avec mon associé ou moi, ça va se faire naturellement. Mais dans des marchés comme la France ou comme le côté anglophone du Canada, ça prend des vendeurs. Parce que tu es beaucoup dans la... Il faut que j'ai un nombre maximum d'appels pour avoir un taux de décrochage, pour avoir des conversations avec des gens qui ne veulent pas m'écouter, qui ne veulent pas créer de relations avec moi et que je sois capable de closer. Ça, c'est l'erreur qu'on a faite. On a recruté que des recruteurs de qualité qui avaient vraiment une expérience et une belle réputation en recrutement. Mais là, si je devais le refaire, bah, avant de recruter un recruteur, j'aurais recruté peut-être deux vendeurs pour faire beaucoup plus d'appels.
Ok. Du coup, ok, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, ça veut dire que, et j'aimais bien, en fait, quand on avait parlé en off, tu me disais, ouais, les gens, il faut qu'ils captent que la France, c'est la France. Montréal, effectivement, c'est francophone, mais c'est un autre pays. Donc, en fait, il n'y a pas du tout la même culture de vente. Mais par contre, ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de ressemblance entre Toronto et la France, en finale, où il faut plus de sales, un peu plus, moi, j'aime bien dire ça, un peu plus shark, un peu plus agressif. Là où à Montréal, il faut, c'est exactement mon expérience, c'est que d'ailleurs j'ai eu des prospects qui m'ont dit, écoutez, on pas dit comme ça, mais ma cocotte, si tu veux t'installer ici, si tu veux pénétrer le marché, va falloir qu'on te voie, va falloir qu'on te sente, va falloir qu'on déjeune ensemble, etc. Tu vas pas rester en remote, nous faire un coup de téléphone, nous relancer, etc. Ça marchera pas. Donc très vite, c'est posé la question de mettre en place un bureau, etc., pour passer du temps, etc. Donc, du coup, en tout cas, c'est intéressant. Tu disais au départ que tu ne parlais pas anglais. Moi, une autre chose, une autre particularité que j'ai eue, c'est que dans la manière dont je parle, parfois, j'intègre beaucoup de francs anglais, comme beaucoup de... Voilà. Et ça m'est arrivé, littéralement, ça ne m'est jamais arrivé de me faire recadrer. Enfin, ça m'arrive rarement de me faire recadrer pendant un rendez-vous commercial. Par contre, là, notamment avec les gens de Montréal, de me faire recadrer parce que je mettais un mot en anglais, mais vraiment littéralement comme si j'étais une gamine. Bon, ça m'avait un peu traumatisée. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus? Évidemment, il y a la culture québécoise, mais en quoi ce genre d'élément, c'est hyper important en termes de posture et que, est-ce que pour toi, ça fait vraiment la différence sur ta capacité à pouvoir pénétrer le marché et à avoir la confiance ou pas, ou c'est juste anecdotique et c'est pas grave, quoi?
Bah écoute, le sujet de la francophonie, on pourra en parler toute une journée là, c'est pas juste lié à la vente, mais si effectivement, tu sais, le Canada est une terre, moi c'est ça que j'adore, mais le Canada est une terre d'immigration, c'est une terre d'opportunités, puis bah, tu sais, c'est pas forcément que des francophones aussi qui arrivent au Canada. Le Québec veut préserver sa langue, aussi elle qu'est le français, puis bah, ça passe par justement ceux qui sont déjà ici, ceux qui arrivent, à chaque rencontre, business ou pas business, hein, tu vas souvent entendre « excusez mon anglicisme ». Parce que tu sais, il y a certains mots que tu vas sortir, c'est naturel de le sortir en anglais, mais pour s'excuser de l'avoir mentionné, tu vas entendre beaucoup de personnes dire « excuse ». Moi, perso, je suis rendu où je ne le dis plus, là, mais selon qui tu es, dans quel type de conversation, tu vas souvent l'entendre. Donc oui, moi j'ai vite appris que il faut pas utiliser des termes comme call ou même meeting, on essaie de dire des rencontres, parce que ça peut être mal perçu. T'es tombé sur quelqu'un?
Non, c'est arrivé, c'était pas été anecdotique. Ça aurait été anecdotique, je t'aurais pas raconté. C'est m'est arrivé trois fois quand même. Mais... tu vois, une fois, c'était un peu dur. Et deux fois, c'était gentil en mode genre, fais attention ici, on est. Parce qu'en fait, j'arrivais avec la casquette, je suis française, je veux intégrer un marché, etc. Donc, c'était bienveillant.
Ici, là, puis c'est quelque chose qu'on en avait parlé en off aussi, mais c'est certain que on reste. Le peuple québécois se protège aussi beaucoup de par ce que je viens de mentionner par rapport à la francophonie, de par l'immigration peut-être aussi, là, mais on fait souvent l'erreur en tant que Français d'arriver avec la perception qu'on vient dans un énième département français. Tu peux très vite, le terme écœuré, là, tu peux très vite écœurer beaucoup de Québécois en disant « Ah, oh, je suis Français, oh, comme vous l'entendez, je suis Français. » Ça déjà... Si je devais donner un conseil à tous ceux qui arrivent ici, arrêtez de dire ça. On le sait, t'as pas besoin de dire comme vous l'entendez, je suis français. Dès que tu dis du coup, c'est, on le sait. Bon. Mais c'est parce que ils vont te pousser justement, puis ils vont te. C'est pour t'aider hein, qu'ils disent ça. Il n'y a pas de tabou ici. D'ailleurs, parler en anglais ou parler en français, on va jamais te critiquer pour le faire. Je sais que ça a été une de mes premières boules au ventre en arrivant, tu sais, je parlais pas anglais, mais je parlais anglais comme un universitaire de France, là, dans le sens où pas bien anglais, je suis désolé de le dire, là, sauf si ça a évolué dans les 10 dernières années, mais on n'apprend pas bien l'anglais en France.
Non, pas du tout. Mais toujours pas. Les Français parlent toujours pas anglais. Et avec l'IA, ça va être encore pire, je pense.
Donc, tu sais, ici, on te pousse à faire des erreurs parce qu'on veut que tu parles. Tout le monde a un accent. Tout le monde vient de partout dans le monde, tout le monde a un accent, donc on veut que tu parles, on veut que tu fasses les efforts. Pourquoi ? Parce que je reviens sur cette fameuse créer des relations. On n'est pas là pour être froid avec toi, donc ces personnes-là qui t'ont donné les remarques, même si sur le coup ça pouvait paraître une critique, c'était aussi pour t'épauler, te conseiller, parce que les gens te le disent. C'est pour te rassurer, c'est de moins en moins fréquent. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus de business international, d'investisseurs internationaux qui viennent ici. Les puristes vont te le dire. Moi, personnellement, j'aime ça me faire servir en français quand je vais quelque part, là, parce que ça reste ma langue natale aussi. Mais très rapidement, tu peux switcher en anglais si tu vois que la personne n'est pas du tout francophone. Puis pour revenir sur quand je suis arrivé, mon français n'était pas super, ça, je le mentionnais en intro, toutes mes entrevues ne passaient pas. Tu sais, des entrevues, je faisais que des entrevues pour être vendeur. Là. Sauf qu'ici, quand tu vends, tu vends à la fois en français puis à la fois en anglais. Tu n'as pas le choix. J'ai eu beaucoup de rejets d'entrevues suite à ça. Puis cette fameuse firme Tech Systems m'ont fait confiance, mais je me suis forcé à tout le temps parler en anglais. Puis je me suis engagé avec eux, guys, correct me if I'm wrong, puis go, tu sais, c'est comme, je vais parler en anglais à tous les jours, je vais écrire en anglais à tous les jours, au téléphone, ça va être en anglais, puis je vais prendre des cours on the side s'il le faut aussi, là. Mais c'est ça qu'ils veulent voir, c'est plus qu'au-delà de la compétence, et c'est pour ça que c'est très propre ici aussi, au-delà de la compétence, ils voulaient voir ton engagement et ta motivation à te dépasser. Puis c'est ça que j'adore en Amérique du Nord. Là. C'est bien plus loin que tes diplômes, c'est bien plus loin que où c'est que tu as travaillé avant ça ou qui c'est qui t'a référé. C'est qu'est-ce que tu vaux là ? Tantôt, oui. Tu cotes là, là c'est un peu qu'est-ce que tu vaux le kid là ? Go ! Vends-moi ta personnalité, vends-moi tes guts. Puis si je vois que ton niveau d'anglais n'est pas encore au top, je le sais qu'il va être au top parce que tu as cette.
C'est pas grave, je m'en fous.
De compétition.
Ça, c'est hyper agréable. C'est hyper agréable, en fait, parce que du coup, on fait attention à qui tu es, à ta perso, à tes compétences, à ton potentiel plutôt que s'arrêter sur un truc qui, au final,
Puis tu sais, au final, dans les dernières années, du moins, là, tu sais, avec la digitalisation de bien nombre de services, tu peux apprendre le français et l'anglais ou n'importe quelle autre langue assez rapidement, là. C'était plus obligé d'aller dans des cours, là. Puis ça, les entreprises l'ont très vite comprise aussi. En tant que recruteur, je me dois d'évaluer des compétences. Puis bien entendu, on évalue principalement le bilinguisme lorsqu'on recrute quelqu'un à Montréal. Mais quand on a quelqu'un qu'on sait qui n'est pas encore au niveau demandé du client, si on a évalué que les autres compétences sont pertinentes pour le poste, c'est notre rôle en tant que recruteur d'aller évaluer le potentiel d'apprentissage de la langue et de le vendre à notre client Parce que lui, il peut être très vite bloqué par ça, là. Mais tu sais, nous, on va juste lui dire, hey, check les compétences qu'il a, il va y arriver, crois en lui. Puis ici, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment.
C'est bien, ça, on avait parlé un peu et du coup, tu disais que toi, ce que tu conseillerais, c'était aux sales français, par exemple, qui voudraient avoir une expérience au Canada, de ne pas se bloquer du tout pour la langue, de parler, évidemment, de bosser à côté, mais que ce n'est pas un filtre. Et souvent, nous, en fait, les Français, on veut que ce soit parfait avant de parler. Du coup, on ne pratique pas et du coup, on ne progresse pas. Du coup, je trouve ça cool comme feedback.
Ouais, vraiment. Puis tu sais, tant pro que perso. Hein.
Ouais, c'est clair.
Tu vas dans un bar, tu vas être amené à parler les deux langues constamment. Puis on parle beaucoup de franglais maintenant, hein, parce qu'au final, tu switches d'une langue à l'autre. Tu commences en anglais, tu finis en français. Tu sais, je te donne un exemple perso. Ma femme, elle est pas née au Canada, mais je veux dire, elle a émigré tôt en Ontario, donc très anglophone. Puis c'est comme des fois, elle me parle en anglais, je réponds en français, vice versa. Même qu'avec les clients, c'est ça. Soit en passant, plus tu as une relation avec certains clients, ils le savent. Ils sont plus à l'aise en anglais, ils me parlent en anglais. Moi, je leur réponds en français parce que je suis plus à l'aise en français, mais ça se fait naturellement, puis il y a zéro accrochage. Parce que c'est ça l'environnement ici.
Et parce que la relation a été faite. Maintenant, je vais te poser une question. Alors qu'on a beaucoup parlé de, OK, les différenciations de vente en France, au Canada, etc. Toi, si demain, parce que bon, t'as un rôle de dirigeant dans la boîte que tu as montée, t'as cofondé une boîte avec les autres. Si demain, en fait, t'étais un Français qui avait cofondé une boîte en France et que tu veux, du coup, y aller, quel type de profil tu vas prendre ? Enfin, c'est quoi la roadmap que tu vas créer pour pouvoir réussir à t'installer au Canada ? Et quand je parle au Canada, peut-être de faire la différence entre le côté francophone et le côté anglophone. Parce que justement, une question qui m'intéresse, c'est est-ce que c'est plus facile de commencer à Toronto, par exemple, ou est-ce que c'est plus facile de commencer à Montréal ? C'est quand même deux mondes différents, c'est deux cultures différentes, c'est deux mindsets différents. Du coup, voilà.
C'est une bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent. Là, tu sais, j'ai la chance d'être partenaire de Montréal International, c'est l'équivalent de Business France. Puis ouais. Leur objectif, c'est d'accueillir des investisseurs étrangers, mais des talents étrangers aussi. Donc, je suis souvent dans des pitchs avec eux pour vendre Montréal, pourquoi venir s'installer à Montréal versus Toronto, versus ailleurs dans le monde. Tout dépend de qu'est-ce que tu vends, tes produits, services, puis pourquoi tu veux venir à Montréal. Il y en a certains qui viennent à Montréal pour le talent, tant mieux, c'est bien, il y en a. Il y en a d'autres qui viennent à Montréal parce qu'ils veulent pénétrer le marché nord-américain.
Ouais.
Il y en a d'autres qui viennent à Montréal parce qu'ils veulent un support monde 24/7. Donc, tu sais, d'avoir du monde.
Ah, yeah.
Tu sais, toi, il est une certaine heure, moi, il est 6 heures en moins en ce moment, mais je parle la même langue. Je suis capable de fournir la même qualité de service aussi. Donc, tout dépend du pourquoi aussi une business souhaite venir ici. Mais le conseil que je donne, ça peu importe où tu vas dans le monde, il faut avoir un mix, amener ton ADN. Donc, tu sais, idéalement, quelqu'un de la business va venir à Montréal pour X nombre de mois ou s'installer tout court ici et embaucher quelqu'un local. Pourquoi ? Parce que ben justement, c'est comme tu as un subject matter expert de la compagnie des produits services qui a ça dans son ADN, qui va être capable de le pitcher facilement. Mais il va le pitcher facilement de la façon dont il le pitch, d'où il vient. Ici, il va falloir trouver une autre façon de pitcher. Avant même de pitcher, une autre façon de créer des opportunités de pitch aussi. Ce que je conseille, c'est... essaye de toujours avoir un combo dans ton core team dirigeant. Là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui vient d'où tu viens et quelqu'un local qui comprend bien le marché, le type de service ou produit que tu as avant. Généralement, quand ça s'applique, il y a beaucoup plus de chances de succès.
Ça va
également créer l'opportunité d'avoir une diversité par la suite. Parce que ce qu'on peut voir, c'est... C'est un biais, hein, mais tu vas embaucher ceux qui te ressemblent le plus ou autre. Puis, on a pu le voir, fut un temps, les SS2I, qui s'appellent ESN maintenant, là, si je ne me trompe pas. Mais les ESN, il y en a énormément qui sont venus s'installer à Montréal. Puis, c'était principalement que des ressources françaises. Donc, c'était pour des clients peut-être un peu plus francophones et non anglophones. Je trouve que d'avoir ce mix-là va te permettre de pénétrer le marché beaucoup plus rapidement. Montréal est une porte d'entrée. Tu disais pourquoi Montréal versus Toronto. Si tu veux pénétrer le marché américain, US, va à Toronto d'un certain... Je pèse mes mots là, mais tu sais, Toronto, limite, la porte, elle est ouverte déjà. On dit que c'est le New York du Canada, c'est un énorme marché en pleine croissance, mais la façon dont tu vends est totalement différente qu'ici. Donc, ça dépend des raisons. Tu sais, le coût opérationnel est beaucoup, beaucoup plus bas à Montréal qu'il peut l'être à Toronto, l'immobilier, les salaires, etc. Donc, il y a énormément de facteurs qui font en sorte pourquoi Montréal ou Toronto. Mais
Je te parle de ces deux villes parce que, évidemment, je connais des gens qui font du business à Vancouver, mais c'est extrêmement loin, moins accessible et peut-être une population ou un marché peut-être un peu moins foufou comme on peut l'avoir à Toronto, à Montréal. En tout cas, c'est une vision dont je me fais.
Oui et non, hein, parce que c'est la West Coast, là. Tu sais, eux, ils sont alignés avec toutes les grandes villes américaines dans la West Coast, mais ils font aussi beaucoup affaire avec l'Asie.
OK.
Donc, c'est juste que pour le français, c'est pas un choix naturel
d'aller à Vancouver.
C'est super loin. Ça me prend autant de temps pour moi
d'aller à Vancouver
que d'aller à Paris. Donc, c'est un choix. Et ça aussi, hein, tu sais, faut considérer l'aspect personnel à pourquoi Montréal. Tu sais, si je prends mon cas, bah, c'est certain que ça a été une facilité en début de carrière de me dire, j'ai pas le niveau en anglais pour aller m'installer à New York ou à Miami, même si toi et moi j'aurais préféré la Miami, mais tu sais, c'était le match parfait. Il y a une connexion entre les deux gouvernements, tu sais, franco-québécois aussi, pas tant juste fédéral mais provincial avec le Québec. C'était super facile à l'époque, ça allait encore, là, tu sais, on s'entend, il y a des pays bien plus compliqués à immigrer comme les US. Donc, c'est une porte d'entrée facile de venir à Montréal, notamment aussi de par la langue, mais évitons les erreurs. T'sais. Moi, j'en ai fait. Là, si je le partage, je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas les faire déjà naturellement, mais je préfère le dire, des choses de base. C'est comme, il faut s'intégrer, on ne vient pas juste là pour se poser. Il faut s'intégrer au marché, il faut s'intégrer à la culture québécoise aussi, puis si vous cochez toutes les cases, vous allez avoir du succès. Parce que le vendeur français, selon moi, en toute humilité, a beaucoup plus de compétences de vente. Et là, je parle en sortant d'école, mais a beaucoup plus de compétences de vente que le vendeur québécois ou canadien en général.
Waouh!
Nos niveaux d'études.
On n'avait pas pensé qu'on aurait dit ça, mais
nos niveaux d'études, déjà. Tu sais, c'est comme, t'as des cursus universitaires 100% dédiés à la vente. En France.
Ouais.
Ici, c'est pas tant ça. Donc, tu sais, ce qui s'approche le plus, on va voir ce qu'on appelle l'administration des affaires, mais tu sais, là-dedans, il y a le marketing, admin, comptable, ouais. Banque aussi. Tu sais, je pense pas qu'ils font des simulations filmées de pitch de vente. Donc, ça, c'est une chose. Puis après, c'est certain que tu le vis, tu l'as vécu, mais tu sais, en France, comme on le disait, c'est peut-être un peu plus agressif, puis c'est chaque, donc ça te pousse à être meilleur vendeur. Ici, tu peux, entre guillemets, te reposer sur tes lauriers si tu vas créer une relation, puis ensuite, tu vas avoir de la loyauté, de la repeat business. C'est un risque, hein. Tu sais, les meilleures boîtes québécoises, c'est justement ceux qui se disent, j'ai beau avoir des relations d'affaires, je vais continuer à pousser, à vendre, j'ai une équipe de
chasseurs
ou de vendeurs au téléphone. Ça, c'est dans les meilleures pratiques, puis bravo à ces compagnies-là, il faut continuer à faire ça. D'où le fait que, comme je disais, les vendeurs français ont cette cote-là, ici. Et okay. C'est pas rare que quand j'ai un poste de... Tu sais, on est généraliste là, chez Sourcing, mais c'est pas rare quand j'ai un poste de directeur des ventes ou autre, on me dise, dépendamment où est-ce qu'il a travaillé, tu sais, j'ai entendu que les Français sont bons en vente.
Tu sais ce que tu dis, c'est extraordinaire parce que je pense que nulle part au monde, j'entends ça. Tu vois, genre, tout ce que nous, on dit, en tout cas, nous, les gens en vente, on dit « Ah non, il n'y a pas de culture de sales en France. Justement, il faut qu'on aille aux US pour avoir une culture sales. C'est là-bas, en fait, qu'on prend toutes les techniques de vente. On les prend principalement aux US. » Et donc, c'est drôle, effectivement, qu'on ait… c'est cool.
C'est quoi la source de la culture sales, en fait? Selon moi, ce n'est que propre à moi, là, mais tu sais, la source de la culture sales aux US, ça vient du sport, ça vient de la compétition. J'ai connu énormément de compagnies que dans leurs premières embauches, tu sais, de juniors en vente, ils s'en foutent pas mal de ton cursus scolaire. Ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que tu étais capitaine de telle équipe, est-ce que tu as été jusqu'à quel niveau de compétition dans tel sport. Pourquoi? Parce que tu le sais, une des compétences, c'est même pas une compétence, c'est un des talents que tu as en vente, c'est d'être compétiteur aussi.
Ouais.
Si tu ne l'es pas, il y a peu de chances que tu aies du succès. Ça, les Américains, ils ont très vite compris ça. Mais après, oui, il y a des très belles écoles de vente aussi. Dans les écoles corporatives de vente, je ne sais pas si c'est connu en France. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé ici, on parlait de l'école des vendeurs d'imprimantes. Là. Donc, tu sais, c'était les Xerox.
Oui, la Xerox, l'école de vente, etc.
J'ai passé une entrevue chez Canon ici, là, à l'époque. Là. Puis, je ne l'ai pas eu, la job, l'anglais, encore une fois. Mais c'était fou, là. C'était vente. Eux, je voyais qu'il y avait une réelle culture de vente. C'était plaisant.
Ouais. Après, c'est super dur comme culture, mais je pense que c'est une culture qui te reste à vie. Et les gens en France, qui sont un peu des stars sur la partie sales, ils viennent pas mal de cette école.
C'est KPI. Et puis, c'est comment tu le fais. T'sais, moi, je suis pour les KPI, mais en même temps, c'est comment tu les présentes, comment tu les mesures aussi, puis comment tu les exploites. Ça peut être très, très, très mal fait, mais hein, il faut bien l'amener. Puis, ils sont vachement poussifs sur les KPI.
Donc, ok, là on l'a
volume versus, malheureusement souvent volume versus qualité là. Ici on focus beaucoup plus sur l'aspect qualitatif de la relation, donc c'est limite mal vu de faire beaucoup de calls ou d'en recevoir. Tu sais, moi je suis monsieur relance à l'interne, puis j'y crois à 100%. Tu sais, puis le recrutement, c'est la même chose qu'un cycle de vente, hein, juste le vocabulaire est totalement différent, mais le cycle d'un recrutement, c'est exactement le même cycle qu'une vente. C'est pour ça que j'aime ça, spécialement dans cet écosystème-là. Mais tu sais, ici, c'est rare que tu vois des recruteurs faire des relances.
Moi, d'ailleurs, en plus, en faisant une petite aparté, je m'étais dit à un moment donné, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde du recrutement, j'ai monté une boîte dans le recrutement aussi, Cube. Et en fait, à un moment donné, avec mon ex-associé, on se disait que ce serait intéressant de faire une formation de vente pour les recruteurs. De donner vraiment les techniques de vente qu'on a aux recruteurs, parce qu'en fait, c'est du sales qu'ils font, sauf qu'on n'appellerait pas ça sales, mais on leur donnerait, t'appellerais pas ça relance, je sais pas, tu donnerais un autre nom pour pas qu'ils aient l'impression d'être trop agressifs. Mais en fait, c'est exactement ce que tu dois faire. Ok, trop cool. En fait, t'as donné pas mal de valeur. Ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant, tu as donné pas mal d'idées sur comment on fait pour aller. Et tu as parlé. Alors, toi, je sais que tu es sur du service au final. Je ne sais pas si tu peux me dire non, mais si tu. Notamment les boîtes de SaaS. Est-ce que. Parce que là, aujourd'hui, tu as beaucoup expliqué que pour venir à Montréal, il y a vraiment la création, tu vois, de relations limites. Enfin, moi, je sais que j'ai entendu qu'il faut un bureau administratif. Enfin, il faut que ce soit vraiment nickel. Tu ne peux pas venir en remote. Enfin, tu vois, genre être en mode je vais ouvrir du Canada à distance. Par contre, est-ce que sur le SaaS, ça change un peu? Tu peux toucher la cible assez facilement avec des techniques de content, avec des techniques plutôt digitales? Ou encore une fois, non, il faut que tu sois quand même identifié comme une boîte qui est présente au Canada, etc.
Bah, c'est un plus. C'est sûr que le contexte du Covid a favorisé le fait de ne plus avoir de bureau, puis de travailler remote, puis de venir en voyage une semaine sur quatre à Montréal. Toutefois, je te donne un exemple très précis. Encore, il y a de ça 2-3 semaines en arrière, j'ai un client de Québec, de la ville de Québec. Moi, je n'ai pas de bureau physique à Québec. J'ai du monde, j'ai des clients, mais je n'ai pas de bureau physique à Québec. Puis, il me l'a dit. Tu sais, j'avoue, idéalement, ça te prend un bureau ici. Là. donc, ouais. C'est très... Tu sais, on n'est vraiment pas loin, hein, mais tu sais, déjà, à Québec, il nous a les gars de Montréal, tu sais. Donc, c'est très propre à la culture, ça prend du monde là, à Québec. Montréal, ça commence à être beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Je le vois même en recrutement. Les postes sont beaucoup plus 100% remote ou hybride. Je serais pas surpris que dans notre région, ça revienne plus rapidement vers un modèle en présentiel que dans d'autres régions, de par tout ce que je viens de t'exposer. Puis on le voit, on commence à voir certaines compagnies qui demandent une présence à 100% au...
yes.
Ouais.
OK.
Donc, sachant que créer une relation ici, ça se fait pas que en vidéoconférence ou au téléphone. Tu sais, il faut prendre des cafés, il faut aller luncher, il faut aller souper. C'est certain qu'une présence. Puis peu importe. En fait, tu parlais de SaaS, mais peu importe le modèle. C'est sûr que si c'est un modèle, tu sais, 100%, ça, tu sais, je suis le premier à utiliser des SaaS, tu sais, qu'il n'y a personne à Montréal. Mais si tu veux vraiment venir ici, puis miser sur le marché, puis je fais une autre parenthèse, mais tu sais, Montréal a été beaucoup une porte d'entrée pour beaucoup de SaaS, justement, ou de logiciels français, parce que bah, toute la plateforme est en français. C'est pas forcément en anglais. Donc, bah, tu sais, le territoire test, ça va être le Québec. J'ai pas tant d'efforts en termes de développement à faire en anglais. Tout est déjà fait en français. Je vais le tester ici. Je me souviens que dans ma boîte de gaming, j'avais pas le choix que d'utiliser un ATS français.
Ouais.
Parce qu'à l'époque, ça tend un peu à changer, mais il fallait absolument que tout soit traduit en français, tous les outils que tu utilises. Donc, on utilisait des outils, je suis désolé de dire ça, malheureusement moins bons, mais qui venaient de la France. Parce qu'à cette époque-là, ouais. c'était aux US qui dominaient là, les ATS, sauf qu'ils n'étaient pas traduits en français. Donc, oui, il y avait quelqu'un qui venait ici parce que le marché, il fallait vraiment déployer massivement au Québec, et pour faire ça, bah, tu ne peux pas le faire juste au téléphone.
Donc, ok.
C'est pas que à la première rencontre. Bah, je ne sais plus comment. Je sais que ce n'est pas ça aussi en France, là, mais ce n'est pas la première rencontre que tu closes. Tu closes une. Ah, je fit bien avec lui ou avec elle. C'est ça que tu closes à la première rencontre. Donc, on va pouvoir en parler à une deuxième ou à une troisième rencontre.
Ok, donc du coup, tu as quand même un cycle de vente aussi également. On n'est pas rentré dans le détail, mais tu as quand même un cycle de vente un peu plus long, mais plus durable si on prend la partie sur l'acquisition, c'est plus long, mais beaucoup plus facilité sur la partie fidélisation et rétention. Donc, tout ce que tu perds en fait en premier, sur la première partie de ton cycle de vente, tu le gagnes parce que tu gardes ton client. Il n'y a pas de sujet à partir du moment où le produit est bon et si la valeur est bien délivrée.
Bah, tiens, on va se le dire, il y a moins de compétition ici aussi par rapport à ce que je viens de te dire. Tu sais, il y a beaucoup de boîtes américaines. Ils ne viennent pas vendre à Montréal parce qu'ils sont zéro bilingue, puis leur solution est qu'en anglais. Donc, par rapport à Toronto, où il y a énormément de compétition, c'est fou. Donc, ça aussi, ça joue. C'est pas que c'est plus facile à... Tu sais, une relation est tout aussi difficile ou facile à maintenir en France. Ici, ouais, c'est ce que tu mets, c'est le comment que tu mets. Et ici, le comment, il est beaucoup plus accentué sur, bah, tu sais, si j'ai entendu que t'as un chat qui traîne, je vais m'en souvenir, puis je vais le ressortir, les noms des enfants. Tu sais, ton CRM, là, il est garni d'un point de vue perso, beaucoup. C'est pas mal vu d'en parler. Puis, je voulais revenir sur un point, j'avais dit... Lorsque je me suis présenté, je vais pousser un peu sur mon intro, mais tu sais, je vous ai dit, je suis né portugais en France. Je suis devenu français à 15 ans, comme beaucoup de mes compatriotes. Là. Mais ici, le fait d'être portugais, ça m'a aidé de ouf. Mais genre...
Pourquoi ?
Incroyable. Parce que moi, David da Costa, quand j'appelais ou quand je bookais un meeting, il ne savait pas d'où je viens. Tu sais, il y a aussi de l'immigration ici, lusophone, hispanophone, etc. Des fois même qu'on parlait direct en anglais, parce qu'ici, l'immigration, autre que française, la première langue souvent parlée, ça va être l'anglais. Il y a tellement tellement, tellement de gens qui sont en amour avec le Portugal au Québec là, et au Canada. Là, tout le monde voyage au Portugal, que tout de suite, ils rentrent dans le perso. Hey, « Eh, tu viens d'où? Hey, je suis allé là-bas avec mes enfants cette année. » Avant de parler, avant de se présenter qui tu es, c'est...
Ah, yes.
ça commence avec ça. Puis, c'est sûr que ça m'a aidé. Super français.
Ouais.
Ça a créé des... Hey, salut, hey, David, hey, ça fait longtemps. Hey, je reviens du Portugal. Hey, j'ai mon cousin. J'ai rien demandé. Hein. J'ai rien demandé. Mais ils se souviennent de ça, tu sais, de notre première conversation. Puis je suis pas là en mode en vente, en dire salut, je suis David Acosta, je suis portugais. Non, c'est pas ça, là, tu sais. Mais c'est eux-mêmes parce
Qui vont
qu'ils.
chercher l'information. En fait,
Parce que
LinkedIn, tu
c'est
personnes.
pour ça que je te dis, c'est très relax, c'est très dans le perso. Tu sais, c'est comme ils veulent savoir qui tu es, ils veulent comprendre pourquoi tu es là. Là, on me le pose moins parce que mon accent est beaucoup moins français de France. Là, j'ai un accent, je ne sais pas quel accent j'ai là, mais. Donc, des fois, ils sont comme tu viens d'où? Puis c'est moi limite qui vais l'initier. Mais ils creusent tout de suite. Puis moi, ça a joué. Ils ont creusé tout de suite sur mon nom de famille, sur mon facial aussi. Puis c'est comme, c'est sûr que tu ne viens pas de là, toi. Tu ne viens pas de la France non plus. Alors que oui, je suis né en France. Mais ça a joué énormément. Donc c'est pour ça que je dis, c'est une terre d'immigration. Puis on veut te connaître. T'sais, peu importe d'où tu viens au monde, là, ils vont vouloir creuser. Puis tu sais, ce que tu peux, dépendamment d'où tu viens, ce que tu peux percevoir comme une attaque n'en est pas une, en fait.
Ouais, je vois très bien parce que par exemple en France, on pourrait avoir l'impression que quand on te demande tes origines, c'est un peu lourd. Pourquoi tu me demandes ça? Écoute, je suis français. Bon, c'est aussi l'histoire et etc. Le contexte. Mais du coup, là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, ce que je retiens, c'est que quand si tu veux faire de la vente là-bas, évidemment, au-delà du fait de créer la relation, c'est casser un peu le côté qu'on peut avoir quand on est sales en France, du côté très machinal. Ok, je prends mon rendez-vous. Je vais commencer par une phase de découverte. Ensuite, enfin, je vais poser le cadre. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on parle de ça? Phase de découverte, mon pitch, next step, ciao, on se parle, on se relance. Ça, en fait, ça ne fonctionne pas du tout
C'est pas
par
que ça
rapport à.
fonctionne pas du tout, c'est
Non,
qu'il
mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas ça qui va t'aider à mieux closer, plutôt.
faut je vais reprendre le terme d'une de mes bonnes amies là, tu sais, c'est comme faut mettre du caramel là-dedans.
J'adore.
Mais si c'est sec, ça passe pas. Si c'est ça que je parlais du terme transactionnel, c'est pas péjoratif, tu sais, on est dans la transaction là, il faut closer. Mais si c'est perçu comme purement transactionnel et que t'es pas là pour me connaître, t'es là pour vendre, c'est là où ça marche pas. Je vais toujours, toujours, puis tu peux demander à tous ceux que tu connais, qui me connaissent bien, là, moi, c'est la rigueur avant le bonheur, là. Ça prend une rigueur dans ta structure, dans ton pitch. Tu peux aller dans tous les... Surtout dans un contexte comme le nôtre où ils vont te poser des questions qui n'ont pas rapport. Si t'es pas structuré, si t'as pas, tu sais, comme tu dis, ta phase de découverte, tous les points que tu vas amener, t'es perdu dans ton pitch parce que tu vas pas savoir revenir.
Revenir, rebondir, dire bon, ok, petite pirouette.
Bon, si on doit reformuler un peu, là, c'est amène ta rigueur française, là, puis amène ta rigueur de vendeur, mais apprends à savoir, tu sais, c'est quoi qu'ils veulent entendre ici. Tu sais, je me souviens les premières années, c'est très stéréotype, là, mais je comprenais rien au hockey sur glace, là, la NHL, rien. Sauf qu'ici, c'est l'équivalent du foot en France ou au Portugal. C'est aussi gros que la religion. Hein. Donc,
Ouais.
il faut comprendre, il faut regarder les matchs, il faut pouvoir en parler parce que bah, ça va être un brise-glace au début des conversations. Hey, t'as vu la game hier? Qu'est-ce que t'en as pensé? Nanani, nanana. Même que tu vas inviter tes clients potentiellement voir des matchs.
Voir des matchs, etc. Ça, c'est. Et en plus, enfin, dans la culture nord-américaine, ça se fait beaucoup plus, pour le coup, qu'en France, ce type de cadeau, c'est beaucoup moins vu comme un truc. En France, si tu fais ça, tu peux être vu. C'est vraiment quand tu commences pour tes vrais clients, tu vois. En tout début de relation, ça peut être vu comme de la manipulation, tu vois. Donc c'est aussi, tu vois, genre, quand tu essaies de me manipuler, de m'acheter, ça, moi, je supporte pas. Par contre, tes clients, ça fait 5 ans, t'es mon client historique, oui, ça passe complètement en France. Mais si tu commences à faire ça avec un client où tu viens juste à peine d'avoir noué une relation, je
Ça,
pense qu'il peut se dire, ouais, t'essayes de m'arnaquer.
c'est très américain, américain même. Comme je te dis, on refait marche arrière, c'est le sport, c'est la culture aussi du sport. Donc, ils vont toujours parler de
Et
sport, constamment parler. Si tu vas aux US et que tu connais rien au foot US,
Au sport, c'est compliqué.
surtout le foot US, c'est compliqué.
Ouais.
C'est compliqué.
En tout cas, ça t'a donné plein de trucs. Je pense qu'on a, ça donne déjà pas mal de billes pour quelqu'un qui souhaite vouloir s'exporter. J'aimerais juste te poser une question plus parce que je sais que ça peut intéresser des sales et puis ça m'intéresse aussi. Si demain, moi, en tant que sales, parce que bon, je pense que les conditions d'immigration, elles se durcissent un peu plus, hein, un peu partout dans le monde. Du coup, est-ce que c'est simple aujourd'hui pour un Français qui voudrait avoir une expérience en dehors de ses études, etc., mais vraiment dire, bon, bah voilà, j'ai tâtonné le marché français, là, j'ai envie de me faire 6 mois, 1 an, voire 2 ans dans une boîte au Canada. C'est possible, c'est facile. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? C'est quoi les leviers?
Bah écoute, c'est une bonne question. Et je vais commencer par, il y aura toujours besoin de vendeurs, que l'économie aille bien ou
OK.
pas bien. Tu sais, en ce moment, l'économie n'est pas top, là. Puis
Ah non.
ce que tu vois dans les pages carrière, c'est des postes de vendeurs. Pourquoi? Parce que bah, il faut vendre. Il faut vendre, il faut
Ah
produire.
oui, faut chier.
Les autres postes, là, c'est du flafla, là, mais il faut vendre et produire. Donc, tu sais, moi, ce que je conseille ici, on est beaucoup sur LinkedIn notamment. Tu sais, et un profil LinkedIn, idéalement, aie-le dans les deux langues. Tu peux dupliquer ta page, là, LinkedIn. Donc, quand un anglophone par défaut va sur ta page, ça va être en anglais. Quand un francophone par défaut va sur ta page, ça va être en français. C'est pas tout le monde qui est fait de cette fonctionnalité-là, mais c'est.
Non, moi je suis pas du tout au courant. Tu viens de m'apprendre un truc de fou que je vais faire.
Il faut
Merci
vraiment le
beaucoup.
faire. C'est super facile à faire, non? Puis ensuite, bah, prenez le temps de vous connecter à distance. T'sais, des personnes comme moi, t'sais, je le fais de manière pro bono une fois ou deux par mois. Là, t'sais, je redonne à la communauté. Puis si je peux aider des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu, mais moi je suis venu sans aide, là, t'sais, avec mes deux bagages, là, mais t'sais, si je peux
Ouais.
aider, je vais le faire volontiers. Mais ce n'est pas que moi. Les gens ici aident beaucoup. Il y a pas de. Je sais que c'est moins le cas maintenant en 2023 en France, mais tu sais, l'époque du piston, si je te pistonne, si je te pistonne, t'as intérêt à bien paraître parce que là, c'est ma réputation en jeu. Ici, il n'y a pas ça. Ici, les gens,
Ouais.
ils réfèrent. Même s'ils t'ont jamais connu, t'as le CV de ta cousine. Là, si je regarde le CV que ça fait du sens, je vais la référer avec plaisir. Donc connectez-vous avec des personnes c'est que vous avez peut-être connu dans vos études ou de par des métiers similaires. Tu sais, je sais que ça marche aussi là. Je vois que tu es subject matter expert sur un tel. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut se poser pour en parler? Tu verras qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire oui.
Qui vont dire oui.
Puis une fois que tu es
En
là,
vrai,
comment.
c'est une culture très nord-américaine.
Bah, c'est ça. Puis tu sais, c'est possible de trouver une job. Avant d'arriver sur le territoire, c'est vraiment possible. Mais dépendamment du visa sur lequel tu vas appliquer, tu peux venir ici directement. Puis c'est certain que, et ça c'est partout pareil, si tu es sur place, tu as bien plus de chances d'avoir une job. Même si tes entrevues peuvent se faire de manière virtuelle ces temps-ci, il y a de fortes chances que la dernière entrevue se fasse en personne. Puis
OK.
oubliez pas qu'ici, bah oubliez pas, vous le savez peut-être pas là, mais t'sais, ici on parle de 2 semaines de préavis. j'ai déjà eu des jobs où à la fin de l'entrevue, on serre la main, tu commences lundi.
OK.
C'est donc et j'avais une job, hein, mais c'est juste que je suis capable de démissionner. Puis, si, t'sais, dépendamment de ton poste, à quel point il est stratégique, tu n'as pas besoin de rester 2 semaines. C'est juste que tu as 2 semaines. Puis
Ouais, non. Et puis en plus de sales, il n'y a pas trop
ici,
d'enjeu.
changer d'emploi ou l'emploi tout court, c'est une opportunité, ce n'est pas un risque. À la fois pour l'employé et pour l'employeur, là. Donc, ça aussi, ayez-le en tête. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir cette boule en ventre et avoir peur d'essayer. C'est une terre d'opportunités qui va te permettre d'essayer, de te casser les dents, de te relever, versus tu parles pas anglais, tu n'as pas un diplôme de telle école ou tu n'as pas travaillé dans tel Big Four. Tu sais, c'est moins ça. Donc, il faut vraiment pas. Tu sais, tout est dans la débrouillardise, l'envie, puis ils vont. Ça, c'est un recruteur qui parle, puis justement, c'est ce que j'aime moins, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont avec le feeling versus l'évaluation ici. C'est notre rôle de recadrer le feeling avec une évaluation.
De cadrer, de dire, bon, c'est bien, tu as le feeling, maintenant, on va voir si ça matche au niveau des compétences.
Exact.
C'est important pour passer.
Mais je l'ai vécu moi-même en tant que candidat, je sais qu'on m'a embauché par le feeling aussi. Tant mieux, je
Ça,
serais
c'est
pas
trop bien.
là. Donc,
Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu as partagé. Et sur la partie, je dirais juste ça, sur la partie, les gens veulent t'aider, te mettre en connexion, c'est hyper vrai. D'ailleurs, toi et moi, on a été mis en connexion grâce à Charles Parent, qui bosse chez toi
faut
et
en
qui était
parler,
un
c'est lui
client.
qui... Ouais. Puis lui, tu vois, je m'excuse, mais tu sais, tantôt, je parlais des différences entre français puis québécois. Il y en a des comme lui, là. Lui, là, il lâche pas le morceau. T'sais, comme un vendeur pourrait l'être en
Ouais.
France. Mais tu mets le combo, je lâche pas le morceau avec le combo, c'est un être que tout le monde adore, puis socialement, il va matcher avec tout le monde.
Complètement.
Ici, là,
Ouais.
ça donne succès. Donc, c'est pour ça que je te parlais, qu'est-ce que ça prend? Tu sais, ça prend cet ADN-là de closer, mais en même temps, va te trouver quelqu'un qui sait fitter et qui sait créer des relations. Ici, tu mets l'enchat, t'as gagné. Moi,
Carrément. Eh
j'ai une personne qui fait tout ça en même temps. Donc, c'est Charles.
ben... ben, c'est génial, c'est une super bonne manière de conclure. En tout cas, merci beaucoup, David. Et puis, grosse réussite encore au Canada, en France, en Europe, un peu partout de ton business. Et voilà, à bientôt. Ciao, ciao.
J'y serai d'ailleurs, je serai à Paris du 8 au 18 décembre. Donc,
Ok, bah écoute, on se captera du coup.
on se
Peut-être
captera.
on peut se capter.
Allez, bon.
Clairement. Ciao, ciao, à plus.
Et
Ciao, ciao.
salut.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.